Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
Bonjour à tous. Pour beaucoup, elles font désormais partie de notre quotidien. Netflix, YouTube, ces plateformes sont extrêmement consommées par les plus jeunes, notamment devenant depuis quelques années des concurrentes très sérieuses aux chaînes de télévision traditionnelles. Laurent Bliot, DGA Marketing et Recherche et Développement chez TF1, ne s'en cache pas. Avec plus de 11 millions d'individus touchés chaque jour par la vidéo en ligne et principalement par YouTube, le digital devient le plus gros challenge de la chaîne. Quelle est donc la stratégie mise en place par TF1 pour concurrencer les géants d'Internet et quels sont les véritables enjeux? Laurent Bliot nous dit tout et vous le verrez sans langue de bois. Première question déjà, pourquoi investir Internet quand on pourrait se cantonner à la télévision qui touchait tout de même plus de 40 millions de personnes par jour en 2021, un chiffre qui n'est pas négligeable? Eh bien tout simplement pour gagner de l'argent. Et le digital est très fort dans ce domaine, il détient un pouvoir très puissant aux yeux des marques qui achètent de la pub, comme nous l'explique Laurent Bliot.
Les médias comme vous, la radio et nous, la télé, là où on a une faiblesse par rapport au digital, c'est que souvent le digital, notamment Facebook, mais également le search, bien sûr, et ils ont une force, c'est de pouvoir te dire, bah, tu vois, le mec qui est arrivé sur ton site ou qui a acheté un truc chez toi, bah, en fait, il est venu chez moi avant. Que moi, la télé, je sais pas faire ça. En fait. Moi, c'est, comme ils disent aux États-Unis, c'est spray and pray. Là, c'est, tu balances et puis tu pries pour que ça marche. Parce que effectivement, tu cliques pas sur la télé et tu regardes la pub télé, t'es pas dans la même posture que quand tu regardes ton flux Facebook, t'as envie de t'acheter des pompes, t'achètes des pompes. Quand tu regardes une émission un peu impliquante en télé, tu t'achèteras tes pompes plus tard. Et peut-être que tu les achèteras parce que tu l'auras vu à la télé. Sauf que ce sera pas attribué en fait.
Le retour sur investissement est quasiment immédiat. Avec le digital, les annonceurs, ceux qui achètent de la pub, peuvent très rapidement savoir si leur communication a fonctionné ou non. La télévision, comme l'explique Laurent Bliot, ne pourra jamais faire ça. Mais si vous avez en plus de la télé du contenu digital à vendre, jackpot, vous pouvez potentiellement séduire de nouveaux clients. C'est ça l'enjeu des grandes chaînes et donc de TF1 pour les futures années, développer du contenu digital pour séduire de nouveaux clients et les séduire avec des arguments qui s'entendent. Vous proposez d'associer votre marque à des contenus dits safety, aucun risque que votre pub se retrouve associée à un programme embarrassant, et autre super pouvoir du digital, vous pouvez proposer de la pub ciblée.
Si vous voulez frapper chirurgicalement une population d'1,5 million, là vous êtes mieux d'aller en adresse stable. Mais le problème qu'on a nous aujourd'hui en adressable, c'est qu'on n'est pas assez développé. Vous voyez, je disais MyTF1, c'est adressable, puisque MyTF1 c'est du digital. Donc soit vous êtes directement avec votre tablette, votre PC sur l'appli MyTF1, comme vous avez un compte logué, je sais votre email, je sais votre âge, je sais votre sexe, je sais où vous habitez. Et si vous êtes sur l'IPTV, puisque MyTF1 vous l'avez aussi sur votre box Orange, Bouygues ou je sais pas ce que vous avez vous, vous savez pareil, où est-ce que le titulaire du contrat habite, si c'est un homme, si c'est une femme, quel âge il a, etc. Mais pour que ce soit intéressant, il faut que si j'ai 1,5 million, je reprends mon exemple de population dans ma cible, il faut que j'arrive à en toucher une proportion suffisamment grande. Aujourd'hui, peut-être que MyTF1, sur les 1,5 million de foyers avec enfants petits que je voudrais toucher, peut-être que je vais en toucher, n'importe quoi, 500 000 en un mois. Alors que YouTube, il va les toucher quasiment tous en une semaine.
Et bien évidemment, tous ces super pouvoirs permettent aussi de vendre la pub plus cher.
En prix au kilo d'audience, le digital est plus cher. C'est-à-dire pour 1000 personnes de votre type touchées, le digital est plus cher que la télé. À cause de la voie de retour, de la possibilité de tracer, du fait qu'effectivement, il n'a aucune déperdition sur son audience. Je veux toucher que les gens qui ont des bébés. Oui, je vais payer cher au kilo, mais c'est que des gens utiles. Donc, en termes de masse totale de ma campagne, finalement, même si je paye cher au kilo, ça va me payer coûter moins cher que si je fais à la télé, où ça va tout de suite me coûter 300 ou 400 000 euros et où j'aurais gâché, entre guillemets, plein d'impressions qui iront sur des gens qui n'ont pas de bébé, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est plus cher le digital. Vous voyez le truc?
Voilà donc pour les enjeux. Parlons maintenant de la stratégie mise en place par TF1, ou plutôt des moyens mis en œuvre pour développer la vidéo en ligne. Si je vous dis MyTF1, vous savez tous que je parle de la plateforme de vidéo en replay de la chaîne. Mais depuis fin 2021, début 2022, elle propose des contenus inédits, comme des spin-off d'émissions telles que Danse avec les stars ou Famille nombreuse, mais aussi des séries qui ne sont plus diffusées aujourd'hui, comme Marc les cœurs à vif.
C'est vrai qu'il faut faire des spin-offs de nos divertissements Bon, ben ça, c'est vrai que c'est du travail en plus pour les producteurs qui n'avaient pas à faire avant, et en mode un petit peu plus, on va dire, économique que ce qu'ils sont habitués à faire. Et après, oui, il va y avoir un peu de production originale, mais ce sera pas, on va jamais produire exclusivement pour le streaming des fictions de prestige. C'est pas amortissable, on n'est pas Netflix, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils payent pas, hein. Donc, pour arriver à amortir, vous voyez, quelque chose, une fiction, je ne prends pas forcément les plus chères, mais voyez, une soirée de fiction sur TF1 en prime time, ça coûte entre 1 et 1 million et demi d'euros quand même. Donc, pour amortir ça avec de la pub streaming, faut y aller, hein. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, le coût pour 1000, c'est-à-dire le prix au kilo de l'audience, il est plus cher sur le digital que sur la télé. C'est vrai, mais en quantité de publicité, on peut en mettre beaucoup moins. Parce qu'il y a une tolérance à la publicité qui est moins bonne sur le digital que dans le flux linéaire de la télévision. Vous voyez, en télévision, on met 9 minutes en moyenne par heure sur 24 heures, c'est la réglementation, hein, et on peut monter à 12 minutes sur une heure donnée. Et d'ailleurs, en prime time, on est à 12 minutes. Sur le digital, quand on arrive à 5 minutes, on est au taquet, en fait.
En résumé donc, proposer plus de contenu inédit pour toucher un spectre de spectateurs plus large et pour toucher donc plus d'annonceurs qui chercheront à faire de la pub ciblée. Plusieurs changements vont être opérés dans les prochains mois ou prochaines années qui permettront à TF1 de développer un peu plus sa présence sur le digital. Récemment, la chaîne a signé un partenariat avec Samsung qui proposera l'application MyTF1 sur ses téléviseurs connectés. Ce type d'accord devrait être multiplié à l'avenir. Et puis, autre changement majeur, à compter de 2024, Médiamétrie va élargir son panel et ajouter une source d'audience, celle des écrans digitaux à votre domicile, smartphone, tablette, etc. Alors qu'aujourd'hui, seul le poste de télé est pris en compte. Et pour les régies publicitaires, eh bien c'est une différence de taille, nous dit Laurent Bliot.
C'est important parce que ça va nous permettre de rentrer dans une mécanique de convergence pour faire converger la currency, c'est-à-dire la valeur qu'on négocie avec les clients, vers le coût pour 1000, qui est la valeur du digital. Aujourd'hui, la télé, la radio se négocient en coût du GRP, la télévision, le digital se négocie en coût pour 1000. Un GRP, c'est une proportion de population. C'est-à-dire que si je dis un GRP sur les 25-49 ans, ça veut dire 1% des 25-49 ans. Vous voyez ? Et aujourd'hui, la négociation en télé ou en radio, elle se fait comme ça. C'est-à-dire, ce qu'on négocie avec les agences, c'est tel prix par GRP. En digital, c'est pas comme ça. En digital, c'est combien vous payez pour 1000 personnes touchées. Donc, c'est du prix au kilo. Voilà. Et la différence, c'est que derrière un GRP, vous savez pas combien de personnes toujours. Du coup, la télévision, la radio, en coût pour 1000, c'est pas cher, en fait. C'est compétitif par rapport au digital.
Cette réforme de la mesure d'audience mettrait donc tout sur la même unité, ce qui permettrait par ailleurs pour les clients qui achètent de la pub de comparer leur retour sur investissement entre une pub à la télé, sur MyTF1 par exemple, ou même sur YouTube. Donc vous l'aurez compris, avec le développement du digital, le monde des médias est en pleine mutation, télé comme radio doivent s'adapter, et il ne s'agit pas seulement d'avoir sa part du gâteau, chacun joue son avenir, la transition est enclenchée et ce n'est que le début.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps, dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir. Des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle peint tes heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de tout, de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les Elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos reportages.
Vous en avez marre de faire du sport tout seul, alors surtout lorsqu'il commence à faire froid et que la nuit tombe plus tôt, on aimerait bien être accompagné. Eh bien, c'est le projet de l'application Smatchy en cours de développement et qui met en lien des sportifs par un système de match et de géolocalisation. Une idée venue de Maude Baudier, une triathlète et jeune entrepreneuse, déjà à la tête du projet Les Bornés, qui défend la mixité dans le sport. Pour elle, l'application doit permettre aux utilisateurs d'allier à la fois le plaisir du sport, le dépassement de soi et puis surtout la sécurité. On lui a posé quelques questions. Alors Maude, tu avais déjà un projet initial avant de développer l'application Smatchy. Et donc, elle s'adresse à qui cette application ?
En effet, on a en fait une communauté qu'on anime depuis 4 ans autour du cyclisme et du triathlon qui a remonté en fait plusieurs besoins et entre autres le besoin de se rassembler, c'est-à-dire que ce qui faisait que toutes les personnes venaient au sein de notre communauté, c'était cette envie de ne pas faire du sport seul. Et ça nous a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'il y avait un besoin d'en adresser sur le marché, qui était en fait le fait de trouver une personne avec qui faire du sport dès lors qu'on est chez soi, en vacances, en déplacement, et quel que soit le sport. Et donc Smatchy est né de cette volonté, c'est de créer une application qui a pour but de mettre en relation des sportifs avec un système de géolocalisation et un système de match en fonction de nos attentes et de nos envies et de notre niveau sportif. Actuellement, Smatchy n'est pas encore développé en phase vraiment applicative. On a en fait la version bêta sur notre ancienne communauté sportive sur la partie cyclisme et triathlon qu'on teste. On teste plusieurs choses, plusieurs algorithmes, c'est un peu notre bêta. Et l'objectif, c'est de le lancer très rapidement sur l'ensemble du territoire européen courant de l'année 2023. La communauté telle qu'elle existe initialement, elle est partout en France et en Suisse.
Alors comment elle va fonctionner cette application ? Est-ce qu'elle va fonctionner un peu comme un site de rencontre à la manière d'un Tinder ou d'un Bumble ? On doit swiper à gauche ou à droite ? Ou bien est-ce qu'il y aura un système de petites annonces où chacun mettra un petit peu son parcours, sa volonté de faire du sport et puis on y répondra un peu comme on voudra ?
Et ben c'est à l'intermédiaire entre les deux. En fait, il y aura à la fois des fonctionnalités qui peuvent faire penser à ces applications de rencontre. En fait, on va chercher une personne en particulier avec qui faire du sport, qui peut être tout à fait orienté sur la performance. Par exemple, je prépare une course et j'ai envie d'avoir une personne qui a les mêmes envies, le même niveau que moi. Tout comme ça peut être lié à une passion, à un centre d'intérêt ou quelque chose qui pourrait rapprocher ces deux personnes, alors que naturellement elles ne se seraient pas forcément adressées la parole d'un point de vue sportif. La plateforme en fait sera faite en deux temps. Il y aura cette partie match et cette partie organisation événementielle. Ce qui fait qu'en fait, la partie organisation événementielle fait un peu plus penser à des plateformes de petites annonces où, moi j'aurais été matchée avec un certain nombre de personnes et à l'issue de ces matchs, je pourrais créer des listes en fait d'amis sportifs et diffuser mes sorties sportives soit au grand public, à tout le monde, soit à ces listes d'amis restreintes. Et là, après, les personnes pourront dire moi je suis dispo ce soir pour le footing avec toi. Et s'inscrire en fait directement sur la plateforme pour dire je suis disponible. Ce qui permettra aussi de fluidifier la coordination parce que moi j'aurais juste à aller sur un espace sans avoir à échanger des numéros de téléphone et des SMS, etc. pour savoir qui est disponible pour ma séance et donc se retrouver à un instant T, à un point donné et partir faire la séance ensemble.
À la base, la volonté de création de cette application, elle est plutôt sociale, on va dire, pour faire des rencontres, mais elle a aussi un aspect un peu sécuritaire, c'est-à-dire que, notamment quand on est une femme, parfois on se pose la question de est-ce qu'on va aller courir dans un endroit un peu sombre, un peu isolé ? Là au moins la question se pose plus trop, puisqu'on est capable de trouver des gens qui vont nous accompagner sur une course, ou sur une promenade à vélo, ou un autre espace sportif.
Tout à fait, en fait c'est même sécuritaire, non pas uniquement pour les femmes, mais pour tout le monde. Là on cite l'exemple des femmes, il est assez évident, mais ça peut être sécuritaire pour des personnes un peu plus âgées, qui veulent pas faire du sport seules, parce qu'elles ont peur qu'il leur arrive un petit pépin de santé potentiellement, et que ça les rassure de se dire qu'elles font du sport avec quelqu'un qui pourrait potentiellement prévenir des équipes paramédicales au besoin. Ça peut être sécuritaire dans le sens où je vais dans une nouvelle région, je ne connais pas les routes, je pense par exemple à tous les sports d'extérieur, et donc j'ai pas envie de me retrouver dans une zone qui va un peu craindre, ou j'ai pas envie de me retrouver dans une zone où il y a beaucoup d'accidents avec les voitures parce que je suis à vélo et je sais que les utilisateurs sur cette route là ils roulent pas bien, et donc je vais bénéficier de l'expertise de locaux par exemple qui vont me dire ah non non, passe par cette route, c'est hyper dangereux, passe plutôt par la route d'à côté qui est vachement plus calme, avec moins de trafic, etc. Et en fait cette notion de sécurité elle est évidente pour les femmes, mais en fait elle existe également pour tout type de profil qui voudrait éviter de mettre sa santé en jeu, quelle que soit la notion de santé, et qui vont avoir besoin en fait de ce lien social dès lors qu'ils se retrouvent en plus de ça en dehors de leur route, ou dès lors qu'ils commencent un nouveau sport ou qu'ils font quelque chose en fait qui va changer de leurs habitudes.
Il y a aussi un côté un peu motivation, parce que c'est vrai qu'après une journée de travail on arrive parfois chez soi un peu fatigué. Là au moins on a quelqu'un qui va peut-être nous pousser à sortir, à aller courir, à aller faire du sport, et ça peut être que bénéf.
Bah oui, en fait il y a un effet, on va dire, positif au fait de devoir rencontrer quelqu'un et de devoir retrouver une personne, c'est que ça nous force à devoir se bouger et aller forcément rencontrer cette personne et éviter en fait le côté bon bah je suis arrivée chez moi, je me suis assise dans mon canapé et en fait bah non, un peu flemme de sortir. Donc ça c'est le premier point. Et le second, c'est que ça permet aussi à beaucoup de personnes parfois juste d'aller se dépasser un tout petit peu. Alors on parle pas forcément tout le temps de performance, mais la notion de se dépasser, c'est ça va être tu es en train de papoter avec quelqu'un, et si t'avais été seul, tu n'aurais peut-être fait que 5 km de footing, mais parce que t'es avec cette personne, tu vas faire 6 ou 7, parce que le moment est bon, c'est un moment agréable, et donc tu vas continuer en fait l'expérience, et tu vas faire quelque chose que t'aurais peut-être pas fait si t'étais seul. Et donc ça permet à la fois d'éviter d'abandonner, d'éviter en fait finalement le côté flemme, mais en même temps aussi ça permet de se dépasser.
Comment ça va se passer l'inscription sur Smatchy? J'imagine que ça va être gratuit pour pouvoir accéder à l'application et rencontrer des gens. Mais après, tu m'expliquais qu'il y avait aussi une version premium qui allait être lancée, notamment pour faire des rencontres un peu plus intimes, on va dire.
On va construire l'application de telle sorte à ce qu'une grande partie des fonctionnalités soient gratuites pour les utilisateurs, et certaines fonctionnalités spécifiques nécessiteront la prise d'un abonnement, qui pourra être mensuel, annuel, selon la volonté de tout à chacun et selon les tarifications. Et entre autres, une des fonctionnalités qu'on mettra en payante, c'est la fonctionnalité Love, qui est une fonctionnalité qui nous a été demandée par les utilisateurs, qu'on trouve assez intéressante parce que en effet, il existe un univers du dating un peu, on va dire, caché dans le monde du sport, puisque finalement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent sur un lieu sportif, mais pas assumé. Or, il y a beaucoup de personnes qui, dans l'univers sportif, aimeraient pouvoir rencontrer des personnes qui partagent le même sport, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, parce que, et je vais par exemple donner l'illustration du cyclisme ou du triathlon, qui sont des sports qui nécessitent beaucoup d'heures d'entraînement et donc un investissement assez fort. Dès lors que vous passez beaucoup de temps finalement en extérieur de votre domicile, il est quand même beaucoup plus agréable de construire une relation avec une personne qui va partager ces sports-là avec vous et donc qui va être dans la même construction que vous, qu'une personne qui ne comprend pas votre pratique, et en conséquence ça va créer des dissonances. Le deuxième plan qui était intéressant par exemple avec la fonctionnalité Love, c'est qu'il est extrêmement pressurisant de se retrouver face à un total inconnu ou une totale inconnue dans un resto ou dans un bar, alors que là en fait c'est un moment sportif, c'est finalement quelque chose qu'on aurait fait quoi qu'il se passe, on aurait fait cette séance là, c'est juste qu'on propose de la partager avec une personne qui peut-être pourrait nous plaire. Et donc ça retire un peu aussi toutes les barrières et tout le côté un peu pressurisant d'un date, parce que au final vous allez juste faire votre séance de sport avec quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être construire quelque chose, et on verra ce que l'avenir vous réserve. Et c'est toutes ces petites fonctionnalités qu'on va réfléchir qui auront ce petit truc en plus et qui là elles seront payantes.
Ok, c'est quoi alors le futur de Smatchy? Comment ça va se passer dans les prochains jours?
L'objectif c'est que la version 1, la version bêta de notre application, sorte courant du deuxième trimestre 2023. Elle sera testée d'ailleurs en exclusivité par notre ancienne communauté et par nos actionnaires, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui vont investir dans notre levée de fonds pourront tester l'application. Et volontairement, en fait, on a rendu la levée de fonds extrêmement accessible puisque tout le monde peut devenir actionnaire dès 11,15€. Donc c'est vraiment pas un gros montant. On a tendance à dire, voilà, aujourd'hui tu mangeras pas un fast-food, tu vas investir dans une start-up. C'est un petit peu l'image qu'on donne. Et une fois l'application lancée sur cette communauté qui va finalement la tester, on ouvrira en fait les frontières et on ouvrira le périmètre pour pouvoir aller chercher plus d'utilisateurs plus loin et sur plus de sports. Et évidemment, l'objectif, ça va être de créer des événements, des happenings qui seront faits conjointement, potentiellement avec des clubs, des groupements, des marques, et qui permettront en fait de mettre en avant certains sports, mettre en avant certaines pratiques et peut-être potentiellement aussi certains utilisateurs, parce que il arrive plein de fois moi, que j'entends de « oh non, c'est pas un sport fait pour moi, je suis » et quelque chose de très négatif qui va suivre ce « je suis ». Et on se rend compte que à travers les événements, à travers la rencontre avec des athlètes ou à travers beaucoup de choses, on peut casser certains codes et certaines barrières. Et donc tout l'objectif sera aussi d'utiliser ce match-sheet dans l'objectif de recréer ce lien local entre les personnes, entre le pro et l'amateur, entre le haut niveau et le débutant. Et tout l'objectif, ça va être de nous utiliser, d'utiliser le digital pour recréer ce lien local.
Merci Maud d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis on souhaite bonne chance à l'application Smatchy afin que de nombreux sportifs puissent se rencontrer grâce à l'application.
Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for. Staring right into the darkness through an empty open door. Can't put back what's been broken, can't change the moment, we went too far. We're pulling apart for no reason, we're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, you're going to the black. What are we fighting for? What are we fighting for? You, no matter what's to come. Some I forgot when they told me we hurt the ones we love. Can't put back what's been broken, can't change the moment, we went too far. For no reason, we're pulling a trigger in a useless war. And if we come back and go into the black, what are we fighting for? What are we fighting? It's just friendly fire. Fire. Fire.
Vous êtes sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Voltage. Wow, come on. Clap your hands to the beat. Dance. Music. Voltage.
Voltage, Dance Music, je suis vraiment trop content de le recevoir ici sur Voltage. En vrai, c'est pas un truc que je vais dire souvent. mais je pense que c'est l'artiste que j'avais le plus envie de rencontrer. Non mais c'est pas une vanne, en plus, je vous le jure, je vous le promets. Il fait partie des meilleurs DJ au monde, il est connu dans le monde entier, il est français et pourtant, il est plus connu à l'étranger qu'en France et ça c'est pas normal, c'est pour ça qu'il est ici sur Voltage. On va en reparler parce que j'ai énormément de questions à te poser. Bonjour Naelek.
Salut.
Ça va, tu vas bien?
Nickel.
Alors comme je viens de le dire, bah tu es français, tu es breton, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Tu viens de Rennes?
Ouais.
Tu es venu là tu viens de Rennes direct?
Ouais, direct, j'ai pris le train ce matin.
Ah mais t'as pas fait semblant.
J'ai fait semblant.
Comment tu es tombé dans la musique électronique? Enfin, on veut tout savoir.
J'ai commencé à faire de la musique électronique en 2009. À l'époque, je sortais en club et j'en écoutais pas mal.
Ok.
Je suis tombé sur une version de Ableton avec laquelle j'ai commencé à bidouiller un petit peu. Et puis après, de fil en aiguille, ça m'a passionné en fait et j'ai continué à en faire jusqu'à aujourd'hui. Au début, dans ma chambre, j'ai fait des petits sons, je jouais DJ aux soirées d'anniversaire de
ouais.
Vraiment des petits trucs tranquilles.
Genre t'étais le gars derrière les platines à toutes les booms et tout.
C'est ça.
Ok, et ça toujours à Rennes?
Au début à Rennes et puis en 2010 en fait j'ai bougé à Tokyo pour...
Ah c'est pas à côté quand même.
Non, j'ai fait un échange universitaire là-bas en fait.
Okay.
Et c'est là-bas que ça a vraiment... décoller un petit peu en fait, j'ai fait des belles rencontres là-bas, des personnes assez connues au Japon qui ont bien aimé ma musique et du coup j'ai signé des premiers titres sur des labels japonais qui ont été mis en avant en CD et tout à l'époque, j'étais super content et puis c'est là que je me suis dit ben, peut-être que ça pourrait être plus qu'un hobby en fait.
Énorme. Et tu es totalement bilingue, tu parles japonais?
Je me débrouillais pas mal à l'époque.
Ouais.
Après j'ai perdu un petit peu parce que maintenant j'y vis plus, mais je peux me débrouiller en japonais. Ouais.
Bah, est-ce que c'est là-bas au Japon que t'as eu ce petit coup de cœur pour la pop culture? Parce que on en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très 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 pop culture quand même, tous tes sons, tes clips, ta DA et tout.
Ouais, bah j'ai toujours aimé quand j'étais gamin, je lisais des mangas, j'ai regardé beaucoup même des comics américains, je regarde pas mal de films, de séries, donc j'ai pas mal été influencé au Japon aussi quand je suis allé là-bas parce que tous mes potes lisaient des mangas, regardaient des animés,
bah ouais.
C'est vrai que c'est quelque chose qui m'influence beaucoup.
C'est ça qui t'a aidé, tu penses, à gagner le Japon, ce côté pop culture un peu manga et tout, ou...
Je pense que ça plaît bien en Asie, ouais.
Mais tu m'étonnes. Non mais encore une fois, je le dis les amis, si vous n'avez jamais vu un clip de Naelek, allez-y, allez voir sur YouTube, la DA est folle, on dirait vraiment des films d'animation. Enfin, je suis absolument fan. D'ailleurs, je me posais la question si c'est toi qui fait tout ce côté graphisme ou t'as quelqu'un avec toi ou...
J'aimerais bien, mais non, je sais pas dessiner, du coup, c'est moi qui fais la DA un petit
okay.
peu. En fait, j'ai le personnage, j'ai l'histoire et je bosse avec plusieurs illustrateurs différents, dont beaucoup avec un illustrateur français qui fait un petit peu de son aussi, qui s'appelle Jean Skibitz.
Ok.
Et c'est lui qui fait la plupart de mes clips et tous mes TikTok en mode dessin animé aussi.
Et Naelek, alors déjà, on peut le dire, tu es ici en studio avec moi, tu as un masque qui représente un petit personnage, tu as un sweat aussi qui est très stylé que j'aimerais beaucoup avoir. Qui est ce petit personnage notamment qu'on voit dans tes clips?
C'est le personnage de Naelek, du coup, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, je me suis dit, je veux raconter une histoire et après juste mettre ma tête, prendre une photo de moi-même et dire, bah voilà ma musique, je trouvais ça un petit peu
ennuyeux.
Et donc j'ai voulu créer tout un personnage, toute une histoire autour de la musique. Et donc Naelek en fait c'est un DJ humain qui n'avait pas trop de succès, qui est mort en fait d'une overdose.
Ok, très soirée.
Et qui en fait avait un rêve très très fort en fait de devenir le meilleur DJ au monde. Donc il a fait un pacte avec un démon pour revenir à la vie et devoir devenir le meilleur DJ au monde. Sauf que du coup il a plus la même apparence. Et en plus, il a du mal à apprécier les mélodies, il aime bien la saturation, tout ça, parce que le démon voulait pas que ce soit trop facile pour lui de réussir.
Je trouve ça génial qu'il y ait une histoire derrière. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans tes clips.
Et les clips, ouais, du coup, ça raconte l'histoire. Moi, j'ai toute l'histoire dans ma tête, et après, avec les clips, les musiques, je donne des petits bouts de l'histoire à chaque fois.
Ça fait plusieurs épisodes.
C'est ça.
J'ai un clip en tête, c'est le Final Boss.
Ouais.
C'est ça, où ça, justement, ça met en image ce que tu viens de nous raconter, du petit gars qui affronte Son Goku, des Pokémon, Mario et tout.
Ouais, bah Final Boss en fait c'est Naelek qui est dans les enfers et qui veut sortir des enfers. Et donc il combat des ennemis là-bas et les ennemis c'est des faux personnages de manga en fait qui ont été mis là par un démon pour l'empêcher de sortir.
Par rapport, on revient un peu à ta DA, ta direction artistique, cet univers que tu as créé un peu pop culture, un peu animation. Moi, j'adore tout ça. je suis fan. Si j'ai envie d'avoir, je sais pas, soit un fond d'écran sur mon téléphone ou alors un tableau avec, avec une œuvre de ta création, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut acheter un tableau, un poster ou je ne sais quoi? Est-ce que t'as fait un espèce de...
Que dans les clips.
Okay.
Après, en plus, ben, du coup, intégrer des personnages de manga, du coup, il faut demander des autorisations si je veux les vendre, les commercialiser.
Ah ouais, ok.
Il faut demander des licences, des choses comme ça qu'on n'a pas fait encore. On a des projets en cours, donc il y aura des choses comme ça, mais pour le moment, c'est que dans les clips.
Un petit comic, c'est un manga peut-être, Nailek?
C'est un projet.
Ah ah, je veux bien. On manquera pas de vous tenir au courant, ça c'est sûr et certain. Nailek, qui est mon invité ici sur Voltage, bah, tu fais partie vraiment de la radio Voltage parce que les auditeurs ont l'habitude de t'entendre, notamment le morceau que tu as fait avec les duos italiens Marnik et Vnaï, Boys in Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est fait cette collab?
Ce morceau, c'était un morceau, on voulait faire une cover, en fait, je parlais avec Marnik et on voulait faire une cover depuis un moment, et en fait un son très club, en fait c'est un son que beaucoup de DJ jouent. Moi je joue en fait l'original de temps en temps dans mes sets parce que c'est un morceau que tout le monde connaît.
Ouais.
Mais l'original est très très hip-hop en fait. Donc on a voulu faire une version très club pour pouvoir la jouer dans mes sets. Beaucoup de mes sons, donc je vais raconter une histoire, mais ils sont aussi faits pour mes sets. Parce que quand je joue DJ ou quand je suis sur scène, faut des sons qui tabassent un petit peu.
Bah d'ailleurs Nailek, regarde, on t'a préparé des platines, tu nous as préparé un mix exclusif pour Voltage, ça sera tout à l'heure, il y aura du Boys in Paris et j'espère du Home Alone aussi. J'ai bien l'impression que oui, restez avec nous, Nailek est mon invité ici sur Voltage Dance Music.
Voltage. Voltage.
Voltage Dance Music avec mon invité d'aujourd'hui, Nailek, l'un des meilleurs DJ au monde. Je le dis, il fait partie des 100 meilleurs DJ au monde. Il y a 3 Français dans le top 100. Il y a David Guetta, DJ Snake et Nailek. Et pourtant, tu es une star immense, notamment en Asie, à Macao, à Tokyo, aussi aux États-Unis, dans le monde entier, et un petit peu moins en France. Comment ça se fait? Je ne comprends pas.
Je suis très vite parti de la France. Hein.
Ouais.
Comme je le disais tout à l'heure, en 2010, je suis parti en échange universitaire au Japon, et j'ai vraiment kiffé le Japon de fou, et je suis resté là-bas pendant presque 4 ans. Et puis après le Japon, je suis allé à Taïwan pendant 2 ans, puis en Australie pendant 2 ans aussi. Donc tous mes projets musicaux ont été créés là-bas. Je tournais beaucoup en Asie et je revenais en France l'été pour voir ma famille et mes amis. Mais donc du coup, j'ai beaucoup moins fait de choses en France jusqu'à ce qu'il y a 2 ans pendant le Covid où je suis rentré en France justement. J'ai vraiment commencé à développer des choses ici.
Et avec peut-être des projets un peu plus en France, des dates, des gros concerts.
Ouais, bah là j'ai plusieurs festivals et dates prévu en France cette année. Je vais jouer à Léger en mars, le Carnaval de Caen aussi.
Ok.
À Castelsarrasin, un festival.
Oh, je connais, mes parents habitent à côté.
C'est vrai?
Ouais.
J'avais jamais entendu parler de la ville avant d'être.
Moi je pensais que personne connaissait en fait.
Bah voilà.
Oh, trop bien. Nailek. Eh bien tiens d'ailleurs, parce que c'est pas ton vrai prénom, c'est ça que je me demandais aussi. Pourquoi? Toi tu t'appelles Kevin, on peut le dire. Pourquoi Nailek?
Bah comme je le disais en fait, avec ma musique, je voulais vraiment me séparer Nailek de Kevin.
Ok.
Et raconter une histoire. Donc il fallait aussi un nom. Et je suis breton, donc j'ai essayé de créer un nouveau nom, un nom de scène qui sonnait un petit peu breton.
Ok.
Jamais été utilisé par personne. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Nailek.
Ça veut pas dire quelque chose en particulier.
Non,
Nailek.
Ça veut rien dire.
C'est un prénom breton.
Je l'ai vraiment créé de...
C'est trop bien.
C'est même pas un prénom breton, c'est quelque chose que j'ai créé du coup. Et je voulais aussi que personne ne l'ait jamais utilisé avant. Donc j'avais fait j'ai créé deux, trois noms. Et puis je les ai tous mis sur Google. Et Nailek, il y avait 0 résultat.
Okay.
0 résultat sur Google, c'est-à-dire que personne l'a fait.
Ouais.
Allez, go.
Donc comme ça, paf, on prend. C'est bien parce que tu fais partie des meilleurs DJ au monde, je l'ai dit. Et pourtant, tu renies pas, enfin tu gardes en toi tes racines bretonnes et avec fierté, quoi.
Oui.
C'est comme dans n'importe quelle manifestation, t'as toujours un drapeau breton.
C'est ça.
Obligatoire. Tu es connu à l'international, je le répète et je le dis, t'as mixé à Macao, t'as à Tokyo, etc. Est-ce que on fait la fête pareil de l'autre côté du monde qu'en France? Ou alors c'est différent?
Non, c'est différent selon les pays. Donc déjà, la façon dont on fait la fête, il y a certains pays où les gens boivent plus et dansent moins. Il y a d'autres pays où tout le monde est en train de sauter partout et où c'est la folie à chaque fois. Ça dépend vraiment, vraiment des pays, je pense, et de la culture. Pareil, le type de musique que les gens écoutent est vraiment différent. Donc des fois, quand je vais dans certains pays, je pense à l'Inde, par exemple, j'ai fait une tournée de 7 dates en Inde où j'ai dû adapter un petit peu mes sets parce que culturellement, la musique que je passais d'habitude et qui marche très bien, même dans le reste de l'Asie, avait un petit peu plus de mal du coup en Inde.
Ok, c'est où que tu préfères mixer? Est-ce que t'as un endroit, un pays ou un festival ou...
J'aime beaucoup Tokyo parce que c'est là que j'ai commencé. Il y a des clubs incroyables là-bas. Après en France ça fait plaisir aussi parce que bah du coup je suis tout le temps parti, j'ai eu du succès à l'étranger et ouais. Mixer de là où je viens c'est vraiment cool.
Bon en tout cas on est trop content de te recevoir ici sur Voltage. Parmi les 100 meilleurs DJ au monde, Nailek est mon invité sur Voltage. Dans le top 100, je le répète et je le redis, il y a que 3 Français, David Guetta, Snake et Nailek. Et d'ailleurs Nailek, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour la suite?
Beaucoup de nouvelles musiques. Je travaille, j'ai déjà fini pas mal de sons qui vont sortir bientôt et je travaille sur plein d'autres musiques. Pas mal d'audiovisuel aussi, beaucoup de nouveaux clips. Je veux continuer à raconter l'histoire de Nailek. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure, sûrement un manga ou une BD, un jeu vidéo.
Ah ouais.
Vraiment des choses pour développer l'univers de Nailek.
Ça serait trop bien. Écoute, on ne manquera pas de vous tenir au courant de tous les futurs projets de Nailek. Nailek, les platines sont à toi. On te laisse prendre possession de l'antenne de Voltage ici à Paris, partout en Ile-de-France. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci à toi.
Voltage. Dance Music.
C'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
Mike du compte Instagram, les secrets Disney sur TikTok. Alors, le problème, je vais te dire ce que c'est. Mm-hmm. C'est que je sais pas comment on va faire pour te libérer avant la fin de la journée.
Ah, il y a trop de choses à dire sur Disneyland Paris.
50 000 questions sur Disneyland Paris.
Tu vois, ça a l'habitude.
Je suis trop content de te recevoir, il y a plus de 220 000 personnes qui te suivent sur TikTok pour savoir un petit peu tous les secrets du parc Disneyland Paris, les bons plans, les astuces, les nouveautés. Je sais qu'il y a notamment le parc sur la Reine des Neiges qui va pas tarder à ouvrir.
Ouais.
Il y a l'Avengers Campus qui vient d'ouvrir. Lui, il a les bons plans pour aller à Disney pour pas trop cher. Tiens, d'ailleurs, comment ça se fait? Comment tu as eu envie de te lancer sur TikTok?
L'ancien travail que j'avais, je travaillais dans une boutique déjà, mais j'avais une option. J'étais guide dans le parc. Et on a eu le confinement, un petit moment de off, on va pas se mentir, c'était très très long. Et je me suis dit, j'ai l'habitude de me balader avec les gens dans le parc, de leur expliquer comment ça marche, les attractions, les histoires, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui peut partager la passion que j'ai de base et surtout donner un côté accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, le souci que je trouvais des vidéos à l'époque de tout ce qui était Disney, tout ça, c'est que c'était trop complexe. Et je me suis dit, je veux toucher une majorité de personnes qui n'y vont pas forcément tous les jours et qui ne sont pas ultra fans de Disney et parler plus simplement avec les gens. Voilà.
Moi, j'y suis allé plusieurs fois à Disneyland Paris. Maud, je sais pas combien de fois tu y étais.
Oh, 3-4 fois aussi, ouais.
Je pensais connaître pas mal de choses sur le parc, hein, déjà, vraiment. J'avais pas mal de petites astuces et ça. Mais alors, sur ton compte Instagram, j'ai appris vraiment des trucs de fou, machin. les secrets qu'il y a dans la Tour de la Terreur, la petite fille qui peut te parler, c'est un truc de fou. Tu bosses chez Disney depuis 2015, ça va faire donc 7 ans, bientôt, au mois de mai, il me semble.
Au mois de mai, ouais.
Tu bosses chez Disney, j'ai envie de bosser chez Disney, comment ça se passe? Comment on se fait embaucher à Disneyland Paris?
Eh ben écoute, déjà il faut aller sur le site Disneyland Careers, en fait t'as My Disney Careers, tu vas dessus, tu peux postuler directement. Alors quelquefois ils font des sessions, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quelquefois ils font des sessions de recrutement dans des villes bien particulières. Ils proposent par exemple une session à Paris ou à l'étranger, possiblement. Là tu fais un entretien. Alors moi, à l'époque où je suis passé, c'était en binôme, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque on passait ensemble. Et t'as une petite session, on te pose des questions un peu comme dans tous les entretiens.
Est-ce que c'est obligatoire de parler plusieurs langues?
C'est pas obligatoire, mais
vivement recommandé.
Ça dépend quel boulot tu fais. Si tu travailles, on va dire, en backstage, où tu n'as pas forcément besoin de communiquer avec un métier où t'as pas besoin de parler plusieurs langues, ça peut passer. Après, c'est pas obligatoire de travailler on stage et de parler plusieurs langues, mais c'est quand même fortement recommandé, on va dire.
Et est-ce que c'est obligatoire d'aimer Mickey du coup?
Moi c'est mon boss, je l'aime bien. C'est mon pote. Il est sympa.
Je voulais qu'on revienne là-dessus. Tiens, Disney c'est souvent très cher. On va pas se mentir, hein, ça coûte quand même assez cher pour prendre sa place. Encore plus quand tu veux y aller en famille.
Ouais.
C'est quoi toi tes bons plans pour payer son entrée moins chère à Disney, manger avec un petit budget là-bas sur place?
Alors en fait t'as plusieurs possibilités. Ce qui est sur le site de Disney, tu peux regarder les différents tarifs proposés. Par exemple au billet un jour un parc, tu peux trouver le prix. Et t'as des codes couleurs. Le vert, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est le moins cher. Alors évidemment, quand t'arrives dans des grandes périodes comme Noël, tout ça, tu risques de pas trouver ce genre de promotion. Mais hors saison, janvier, février par exemple, tu peux trouver des tarifs très intéressants pour le parc. Tout ce qui est au niveau de la consommation, donc pour manger, tu peux, avec un budget, on va dire, entre 15 et 20 euros, trouver un fast-food qui est l'équivalent de ce que tu peux avoir partout, hein, à l'extérieur du parc. Moi, je dirais... Le plus simple aussi, c'est de potentiellement anticiper d'aller manger soit plus tôt, soit plus tard, en dehors des horaires où les gens mangent, donc c'est-à-dire éviter midi, quoi, histoire qu'il n'y ait pas 300 000 personnes qui attendent pour manger un burger. Mais oui, si tu peux essayer de limiter ta consommation et ta dépense sur la journée si tu gères bien et tu anticipes ta venue. Ouais.
Alors justement, tu le disais, beaucoup de monde pour manger, beaucoup de monde dans le parc aussi.
En général, oui.
Comment on fait? C'est quel moment de l'année où on peut venir, où il y a... pas trop de monde, on va dire?
Comme je disais tout à l'heure, hors saison, je pense que janvier, février, c'est peut-être un peu plus calme. Alors, il faut prendre en compte que si tu viens avec ta famille et que tu veux voir, par exemple, tout ce qui est spectacle de Noël, tout ça, évidemment, tu vas vouloir venir pendant les vacances, pendant la magie.
Pendant la foule.
Exactement. Pendant les jours fériés, pendant les week-ends. Donc, du coup, évidemment, tu auras toujours un peu plus de monde à ce moment-là, mais tu auras une offre qui sera différente que celle que tu pourras avoir en début d'année, par exemple. Par contre, je pense que le mieux, c'est, imaginons que tu es un groupe d'adolescents, tu veux venir juste faire des gros coasters, des choses comme ça, vraiment t'amuser, attraction, pas de spectacle. Dans ce cas-là, si tu as un petit budget, que tu es une bande de potes, le début de l'année, ou les périodes froides, ou les périodes où il fait pas mal de pluie, et en semaine.
Quand tu dis pas trop d'attente aux attractions, c'est combien de temps?
Ouais, ça dépend ce que tu veux faire comme attraction. En fait, si tu sélectionnes, imaginons que tu veuilles faire des coasters, comme je disais tout à l'heure, tu peux tomber sur du 15-20 minutes. Wow.
Ça va.
Oui, non, c'est plus que raisonnable.
C'est plus que raisonnable. Hein. J'ai attendu 100 minutes à une attraction à Disney. C'est normal. Ouais. 100 minutes, c'est pas mal.
On dit victime de son succès.
Et le monde de Nemo, typiquement, ça peut être combien de temps
Je sais pas. Je pense que le plus... le plus rapide que j'ai pu voir, ça doit être soit entre 20 et 30 minutes grand max.
Ah ouais, parce que d'habitude c'est quoi, c'est du 70 minutes en journée, des trucs comme ça.
C'est un certain temps.
Le monde de Nemo, juste pour mettre.
Attends, mais juste, on peut pas attendre moins de 20 minutes, ça n'arrive jamais.
Bon, il y a certainement des moments dans l'année où oui, tu peux attendre moins de 20 minutes, mais là je te donne à peu près une moyenne, quoi, okay. On va dire.
D'ailleurs, l'attraction Le Monde de Nemo, qui est donc dans le parc Disneyland Studio,
oui,
qui est l'attraction la plus traître du monde. À savoir que tu arrives devant, tu dis ok, bon, c'est tout mignon, machin, c'est Le Monde de Nemo, ça va être sympa.
Ouais.
Pas du tout, vraiment pas du
en
tout.
En fait, il y a un petit repère qui est super intéressant, c'est à l'entrée de l'attraction, si tu regardes sur la gauche, t'as une petite figurine d'une tortue qui est en train de tourner dans tous les sens. Et en fait, c'est exactement ce que tu vas faire dans l'attraction.
Oui, enfin ça, faut le savoir.
Sauf que personne le voit.
Faut le savoir que ça représente l'attraction, ça.
Clairement.
On voulait absolument parler avec toi, Mike, de l'ouverture du nouveau parc, la nouvelle partie du parc sur la Reine des Neiges.
Ouais.
Alors ça sera, si je dis pas de bêtises, côté Disneyland Studio.
C'est ça, ouais.
Un petit peu plus loin que Disneyland Studio, c'est le prolongement du parc.
Exactement,
en gros.
C'est ça, c'est un prolongement du parc. Ouais.
Est-ce que ce sera le même parc? Moi, c'est ça que je voulais savoir, ou c'est un parc à part?
Non, ce sera le même parc. Ça fait partie des Walt Disney Studios.
Ah, ok.
Donc, à l'instar de ce qui a été fait pour l'Avengers Campus, finalement.
Exactement, ouais, c'est, en gros, c'est un prolongement. Il va y avoir un agrandissement, ça va popper.
Alors, je sais qu'on peut pas dire trop de choses.
Je peux pas dire trop de choses.
Mais j'imagine que ça va être immense. J'ai cru voir des articles passer sur internet comme quoi ouais, ça va être très très grand.
Je pense que ça va être impressionnant, ouais.
Il y a un lac.
Il y a un lac.
On peut le dire.
Ça, on peut le dire.
Il y a un château.
Il y a un château.
Château de la Reine des Neiges.
On peut pas le dire.
Ah, on peut pas le dire.
Oui.
Bon, écoute, ça semble un petit peu évident quand
vrai,
même.
Je crois qu'on voit les travaux. Alors, peut-être que tu pourras pas me confirmer, mais de ce que j'ai compris, dans Walt Disney Studios, t'as une espèce d'attraction à côté de la tour de la terreur des parachutes.
Ouais.
Et quand t'es en haut des parachutes, tu vois les travaux qui ont commencé.
Ouais, si t'as des bons yeux, c'est moi qui l'ai dit.
Et je vais vous faire une petite confidence aussi. Les travaux en ce moment, ils sont fermés par des palissades en bois, c'est ça, hein?
Ouais.
Je dis pas de bêtises. J'ai voulu voir, tu sais, par les interstices en bois, quoi, ça allait ressembler. Bon, c'est vraiment au stade de travaux en ce moment, donc vraiment.
Ouais, en fait,
il y a vraiment pas grand chose.
Il y a pas d'intérêt, c'est de regarder. Le mieux, ce sera quand ce sera ouvert, ce sera super magique. Avant, il y a pas d'intérêt.
Et là, je suis trop pressé aussi de retourner à Disney pour aller faire le nouveau Avengers Campus qui vient d'ouvrir côté, pareil, un Disney Studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Moi, je sais pas du tout, j'y suis jamais là encore.
Ok, bah t'as deux attractions, t'as deux nouvelles attractions.
Okay.
Web, qui est une attraction. En gros, tu es dans pour simplifier, t'es dans une cabine qui bouge un petit peu, qui se déplace, un peu comme si t'avais fait Ratatouille, déjà.
Okay, ouais.
Donc, si tu es dans le noir, t'as une cabine avec des lunettes aussi qui te permettent de voir des effets de relief. Et t'as des capteurs tout autour de la machine où tu te situes qui te permettent, en faisant le signe connu de Spider-Man, là, plier ses doigts, de tirer sur des cibles, des robots,
okay,
des Spider-Bots, des petites araignées qui t'attaquent parce que, selon l'histoire, en gros, elles se démultiplient à un niveau exponentiel. Et du coup, il faut aider Spider-Man à arrêter cette invasion.
D'accord.
Ça me fait un petit peu penser à l'attraction sur Buzz l'éclair aussi,
oui,
où tu te déplaces dans une espèce de petite navette, il faut que tu tires sur des cibles.
Ouais,
là,
ça,
avec
c'est
plus
un peu le
d'effets, de ce que je comprends, t'as des trucs 3D et puis tu lances comme des toiles d'araignée.
Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi une attraction. Alors, ils ont refait Rock'n'Roller Coaster sur Iron Man, c'est ça?
Flight Force, ouais, exactement.
À savoir que Rock'n'Roller Coaster, c'était l'attraction avec le plus de sensations de toutes les attractions Disneyland Paris.
C'est toujours la même chose pour Flight Force, hein, le démarrage et tout. Ben, t'as des changements au niveau du thème. Par contre, alors vraiment, il faut rentrer dans le bâtiment de Friday, qui est magnifique, vraiment, qui est réellement magnifique. La file d'attente, tout ça a changé. L'attraction en elle-même, donc je parle du ride, le ride en lui-même n'a pas changé. Par contre, tout le thème, c'est une rethématisation globale, en fait.
Il y avait un truc trop bien aussi avant dans cette attraction-là, c'est que tu avais des grosses enceintes qui mettaient du Iron Maiden, je crois, non?
Non, Aerosmith.
Aerosmith pour n'importe quoi.
Oui, le thème de l'attraction.
Il y a toujours de la musique à fond pendant l'attraction.
Alors t'as toujours les enceintes, par contre t'as plus la musique. T'as plus de métal ou de rock. Maintenant c'est en gros tu as l'histoire qui continue le temps de ton périple, on va dire, et qui t'explique ce qui se passe.
Mike, je pense que c'est le moment d'ouvrir la rubrique de cette émission qu'on va appeler la rubrique fourre-tout, c'est-à-dire des questions qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Mike du compte Instagram Les Secrets de M, qui connaît absolument tous les secrets de Disneyland Paris. Alors on démarre avec cette question. J'ai un jour dans le parc à Disney ou Disney Studio, ou peut-être même les deux. J'ai pas allumé ton micro.
Ok, c'est mieux.
Qu'est-ce que je dois absolument faire comme attraction?
Tout dépend. Là on parle de toi.
On parle de quelqu'un qui adore faire les manèges dans tous les sens, et ceux qui sont un peu plus soft avec des enfants.
Ok, donc deux catégories. Si tu veux vraiment partir en famille et voir tout ce qui est spectacle, imaginons que t'as des enfants en bas âge et qui vont jusqu'à, on va les dire, 10 ans par exemple.
Ok.
Fantasyland, je pense que c'est le bon démarrage, même s'il va y avoir beaucoup de monde, parce qu'évidemment les familles viennent très tôt, parce que les enfants en tiennent moins dans la journée, ce qui est logique.
Rappelle-nous, Fantasyland, c'est quelle partie du parc ça?
Après le château, effectivement, c'est ça.
D'accord, là où il y a Peter Pan, Pinocchio, exactement. Etc. Okay. Ouais.
Toute cette partie-là, tu peux le faire, parce que globalement, les attractions sont faites pour les enfants, avec une petite exception pour Blanche-Neige et les Sept Nains.
Alors oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est marrant que t'en parles.
Ah ouais, bah, alors cette attraction-là, on l'a fait beaucoup avec nos guests, nos invités. Quelques parties de cette attraction peuvent potentiellement faire peur aux plus jeunes. Mm-hmm.
Alors c'est marrant parce que
je la connais pas du tout, moi, cette attraction, je vois même pas où elle est.
Je crois que t'es assez grande, t'auras pas peur.
Je me permets de rebondir dessus parce qu'en fait j'y suis allé à Disneyland un jour quand j'étais très petit avec mes parents et j'ai un très net souvenir de cette attraction qui m'avait fait très peur. Il y a une partie en fait où tu passes avec un wagon dans une espèce de forêt.
C'est ce passage-là.
Une forêt hantée. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur quand j'étais tout petit.
Ah mais il y a des gens qui crient ou
Non, du tout. Bon, nous à notre âge, pas du tout, ça va pas du tout nous faire peur. C'est juste qu'en fait, ça peut être impressionnant pour les gamins parce que t'as vraiment des arbres hantés, machin, qui sont un peu dans le noir, avec des gros yeux. Bah, tu sais, comme une forêt dans le noir la nuit. Donc, ça peut être un peu flippant. Mm-hmm. Mais ça reste pas mal à faire en famille. Bon,
tout dépend. En fait, oui. Je pense que tu dois prendre un peu la température, on va dire, avec les enfants. Si tu vois qu'ils sont assez OK de voir un peu d'horreur, je mets des grosses guillemets à horreur. Mais du coup, s'ils ont pas vraiment peur, tu peux les envoyer dans Blanche-Neige des Sept Nains. Mais si tu vois qu'ils sont un peu plus craintifs, évidemment, mieux vaut éviter. Moi, je pense que c'est le genre d'attraction que je conseillerais pas avant au moins 6 ans. Si tes enfants ont encore un peu d'énergie, bah, tu peux faire un tour sur les studios. Il y a quelques attractions qui sont faites pour eux aussi, hein, mm-hmm. qui sont intéressantes. Tu peux faire Ratatouille, par exemple, pareil, avec aussi une petite retenue si les enfants ont un peu peur du noir, tout ça. Mais c'est une attraction qui passe généralement bien. Et par contre, si on prend tout à fait l'inverse, un groupe d'adolescents ou des jeunes adultes ou des adultes qui veulent vraiment faire de l'attraction pure et dure, bah du coup, parc principal, Space Mountain, alors Big Thunder Mountain, que tout le monde appelle le train de la mine.
Ouais. Voilà. Qui fait énormément de bruit d'ailleurs.
Qui fait pas mal de bruit, ouais. Ouais. Bon, après, c'est censé être un train un peu fou de mine, hein. Donc, ouais. C'est un peu le but. Mais, tu peux faire le train de la mine, partir sur les studios. Sur les studios, il y a des attractions comme la Tour de la Terreur qui sont incroyables, que ce soit au niveau sensation ou au niveau storytelling. L'histoire est géniale.
Ouais.
Et après t'as RC Racer, c'est la voiture en half pipe là qui fait des allers-retours.
Oui, voilà. Oui, qui fait allers-retours un peu comme un bateau pirate.
Ouais, plus ou moins. Ouais. C'est encore la seule attraction aujourd'hui, malgré qu'on ait fait, je sais pas, 300 millions de fois chaque attraction, qui me fait encore de l'effet réellement.
Ça c'est fou. Et alors, parce qu'il y a quand même pas mal de temps d'attente à Disney. Stratégiquement, si j'ai envie de faire le plus d'attractions possible sur une journée avec les temps d'attente qu'on connaît, mm-hmm. il faut que je fasse quoi? Comment je fais? C'est quoi ton plan d'action?
Moi, je partirais sur le fait dès le matin, la majorité des gens s'imaginent que partir sur les studios et passer la moitié de la journée, c'est un bon plan parce que le parc est plus petit, parce qu'ils auront plus de temps l'après-midi, tout ça. Tout le monde pense comme ça. Donc, je dirais, commencer par le parc principal, c'est mieux que de commencer par les studios. Ensuite, tu restes, quand tu vas dans un land, tu sélectionnes où tu veux aller. Si tu veux aller faire Discovery Land et que tu as envie de faire Space Mountain, Buzz, Star Tours par exemple, et ben du coup tu vas dans ce land et tu y restes. Même si tu as une heure d'attente sur une attraction, parce qu'en fait, je pense que les gens perdent plus de temps à partir de, comme par exemple Space Mountain, à changer de parc, aller sur Ratatouille par exemple, et revenir plus tard sur le train de la mine, tout ça. Tu perds plus de temps à te balader dans le parc que si tu restes stratégique et que tu attends un petit peu plus longtemps, quoi.
Eh, tu fais bien de le dire parce que moi c'est typiquement le genre de truc que je fais, à savoir je vais d'un bout à l'autre du parc, je perds du temps. Bah ouais, en plus de ça t'es claqué à la fin de la journée.
Bien sûr.
Donc par zone géographique, on fait tout par zone géographique, ouais, et on épuise le truc comme ça.
Pour moi en tout cas, l'ayant pratiqué plusieurs fois, je pense que c'est ce qui est le plus rentable dans ta journée en tout cas.
Et puis alors, la question qui est la question débat que je me pose depuis je sais pas combien d'années avec mes parents, avec mes potes. Tu vas avoir le plus de sensations dans un manège, tu te mets tout à l'avant ou tout à l'arrière?
Alors ça dépend de l'attraction.
Comment ça? Comment ça, ça dépend de l'attraction?
Ça dépend ce que tu veux faire. Alors imaginons, pour moi, je dirais que la majorité du temps, si tu te mets à l'arrière des attractions rapides, des coasters, tu auras un peu plus de sensations parce qu'évidemment, comme c'est une sorte d'énergie, disons que tu as une poussée, et ben, tu prendras toujours plus de vitesse à l'arrière qu'à l'avant. Mais par exemple, dans Flight Force,
c'est lequel celui-ci?
L'attraction de campus que je disais tout à l'heure.
Le roller coaster avant.
Voilà, okay. L'ancien Aerosmith. Eh ben, je te dirais, mets-toi à l'avant, non pas pour les sensations, mais je pense que tu as plus la possibilité de voir tout ce qu'il y a autour de toi, donc tout ce qui est décor, tout ça.
Ouais.
Donc je te dirais une fois pour les sensations à l'arrière, une fois à l'avant pour le thème et la magie.
Et ceux qui ont un peu peur, c'est au milieu.
c'est vous sortez et vous allez faire It's a Small World, la maison des poupées. C'est très très bien.
D'ailleurs, voilà. La maison des poupées, ça a réouvert ou pas encore?
Pas encore. Ça, alors, j'ai pas la date de la réouverture, mais c'est pas encore.
Ok. Vibration. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Vous écoutez Vibration.
These beautiful things that I've got. Please stay.
À tout moment, les titres que vous aimez. Des meilleures nouveautés au classique 90-2000. Toute la journée, votre dose de bonne humeur.
Bienvenue sur Vibration.